Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est le numéro 12 de la série « Où jeter l'ancre ?» Et les deux thèmes seront les suivants. Premièrement, pas de réveil sans réforme. Deuxièmement, qu'est-ce que la vie plus profonde? Voyez-vous, de nos jours, partout où des chrétiens se réunissent, on est sûr d'entendre un mot qui revient constamment sur leurs lèvres, c'est le mot « réveil ». Dans nos sermons, nos cantiques et nos prières, nous rappelons toujours au Seigneur et nous nous rappelons les uns aux autres que ce qu'il nous faut pour résoudre nos problèmes spirituels, c'est un réveil puissant comme autrefois. La presse religieuse s'est aussi laissée gagner par l'argument que le réveil est le plus grand besoin de l'heure et si quelqu'un peut préparer une étude sur le réveil, il trouve sans peine un éditeur. Ce vent qui souffle pour le réveil est si fort que presque personne ne semble avoir assez de discernement ou de courage pour faire demi-tour et l'affronter, bien que la vérité puisse se trouver dans cette direction. Donc la religion a ses vogues comme la philosophie, la politique et la mode. Historiquement, les grandes religions de ce monde ont eu leur période de déclin et bien sûr aussi de renouveau, et ce sont ces renouveaux que les historiens appellent carrément des réveils. Aux États-Unis, le catholicisme romain ainsi que le protestantisme libéral a pris de telles proportions que le terme de réveil est presque nécessaire pour décrire le phénomène. Et cela sans la moindre élévation du niveau moral des fidèles. Le christianisme populaire pourrait aussi jouir d'un boom complètement indépendant de la puissance régénératrice du Saint-Esprit et laisser ainsi l'Église de la génération suivante dans un état pire qu'il n'aurait été si ce renouveau n'avait jamais eu lieu. Je crois que le besoin impérieux de l'heure n'est pas simplement le réveil, mais une réforme radicale qui ira jusqu'à la racine de nos maladies morales et spirituelles et s'attaquera aux causes plutôt qu'aux conséquences, à la maladie plutôt qu'aux symptômes. Tout bien considéré, je pense sérieusement que dans les circonstances présentes, nous n'avons absolument pas besoin d'un réveil général du type de christianisme que nous connaissons aujourd'hui, car cela pourrait s'avérer être une tragédie morale dont nous ne serions pas guéris dans 100 ans. Voici donc quelques raisons. Il y a une génération, un puissant mouvement, en faveur de la foi chrétienne historique que naquit au sein du protestantisme en réaction contre la haute critique de son produit, le modernisme. Pour des raisons évidentes, on l'appela fondamentalisme. Ce fut un mouvement plus ou moins spontané, sans beaucoup d'organisation, mais son but, où qu'il se manifesta, était le même, c'est-à-dire arrêter la marée montante de la négation, et ceci dans la théologie chrétienne, réaffirmer et défendre les doctrines fondamentales du christianisme néo-testamentaire. Voilà donc pour l'histoire. Or, le fondamentalisme fut victime de ses propres vertus alors qu'il se répandait dans nombre de dénominations et d'églises indépendantes. La parole mourut, hélas, dans les mains de ses amis, et l'inspiration verbale, par exemple, fut bientôt frappée d'une rigidité mortelle. Dans de vastes domaines, l'imagination religieuse se dessécha, et une hiérarchie officieuse décréta ce que les chrétiens devaient croire. Le chrétien crut non pas seulement les Écritures, mais ce que le scribe pensait qu'elles pouvaient éventuellement signifier. Les dispositions spirituelles étaient différentes de celles des premiers chrétiens et des grandes âmes qui souffrirent, chantèrent et adorèrent dans les siècles passés. Les doctrines étaient saines, mais il y manquait quelque chose de vital. On ne permettait jamais à l'arbre de la bonne doctrine de fleurir. On entendait rarement la voix de la colombe dans le pays, mais surtout celle du perroquet qui s'asseyait sur son perchoir artificiel, répétant simplement et respectueusement ce qu'on lui avait enseigné. Donc, il n'y avait pas de place pour les émotions, d'où un climat généralement sombre et ennuyeux. La foi, qui était une doctrine puissante, régénératrice dans la bouche des apôtres, devint toute autre chose dans celle du scribe et sa puissante, ou si vous voulez, sa puissance, qui, évidemment, diminua. Et je dois préciser que si c'était là une condition générale, il y eut néanmoins, même dans cette période de déclin, des hommes dont les cœurs assoiffés étaient de meilleurs théologiens que leurs maîtres. Ils s'élançaient vers une plénitude et une puissance inconnue des autres. Mais ils étaient si peu, et les autres si nombreux, ils ne purent donc dissiper le brouillard qui régnait sur le pays. Voyez-vous, la Bible nous dit comment être sauvé. Mais d'après eux, elle nous dit que nous sommes de toute façon sauvés, ce que dans la nature même des choses, elle ne peut pas faire. Ainsi, l'assurance du salut individuel n'est rien moins qu'une conclusion logique tirée de prémices doctrinales et d'expériences qui en découlent et purement intellectuelles. Avec l'affolement d'hommes qui se noient, elles se frayèrent un chemin vers l'air et se lancèrent aveuglément à la conquête d'une plus grande liberté de pensée et surtout d'une satisfaction affective que leur nature revendiquait et que leur maître, évidemment, leur refusait. Il s'ensuivit au cours de ces 20 dernières années une débauche religieuse qui n'a guère été égalé depuis qu'Israël adora le veau d'or, souvenez-vous. On peut dire de nous, chrétiens bibliques, avec raison, que nous sommes assis pour manger et pour boire, et que nous nous sommes levés pour nous divertir. Et la ligne de démarcation entre l'Église et le monde a été pratiquement supprimé. à l'exception de quelques péchés vraiment grossiers, eh bien les péchés du monde irrégénéré sont maintenant, voyez-vous, approuvés et imités sans hésitation par un nombre scandaleux de chrétiens qui font profession d'être nés de nouveau. Les jeunes chrétiens prennent comme modèle le type le plus parfait du mondain et essayent de s'y conformer le plus possible. Les conducteurs religieux ont adopté les techniques des publicistes, c'est-à-dire la vantardise, la séduction et l'exagération sans scrupules sont maintenant admises comme des procédés normaux dans le travail de l'Église. Donc le standard moral n'est plus du tout celui du Nouveau Testament, mais celui d'Hollywood ou de Broadway. La plupart des chrétiens ne prennent plus d'initiative. Ils copient simplement le monde qui devient leur modèle. Bien souvent, la sainte foi de nos pères est devenue une espèce de divertissement et il est effrayant de penser que tout cela a été dispensé aux masses depuis le sommet. Et cette note de protestation qui s'est fait entendre, on peut bien le dire, dès le début du Nouveau Testament, et qui a toujours fortement retenti quand l'Église s'est trouvée au fer, on peut dire, plutôt au fait de sa puissance. Je répète, cette note de protestation qui s'est fait entendre dès le début du Nouveau Testament, il faut bien le dire, et qui a toujours fortement retenti quand l'Église s'est trouvée au fait de sa toute-puissance, on pourrait aussi le dire, eh bien, elle a été réduite, un jour ou l'autre, et plutôt rapidement, au silence. Et l'élément spécifique du témoignage et de la vie que le monde haïssait jadis est curieusement aujourd'hui absent des milieux. Autrefois, les chrétiens étaient des révolutionnaires. Il n'est plus ni dangereux ni coûteux d'être chrétien aujourd'hui. La grâce de gratuité qu'elle était est devenue bon marché. De nos jours, nous nous employons à prouver au monde qu'il peut obtenir tous les bienfaits de l'Évangile sans changer quoi que ce soit à son habituelle manière de vivre. Ils disent « Oh, vous aurez tout cela et le ciel par-dessus le marché. » Et cette description du christianisme moderne ne doit pas être généralisée. Elle est cependant vraie d'une majorité écrasante de chrétiens d'aujourd'hui. Pour cette raison-là, il est inutile que de grandes assemblées passent de longues heures à supplier Dieu d'envoyer le réveil. Car voyez-vous, si nous n'avons pas l'intention de nous réformer, nous pouvons aussi bien ne pas prier. Car si en priant, les hommes n'ont pas la vision de leur faiblesse, ni la foi pour que toute leur vie devienne conforme au modèle donné dans le Nouveau Testament, il ne peut y avoir de véritable réveil. Parfois, il me semble que la prière est non seulement vaine, mais elle est même répréhensible. En voici par exemple l'exemple suivant. Israël a été vaincu, c'est marqué dans Josué Josué chapitre 7, verset 6. Or Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, et même le visage contre terre, et devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Donc, selon notre philosophie moderne du réveil, c'est ce qu'il fallait faire, et s'ils avaient persévéré dans cette voie, va savoir, Josué et ses hommes auraient certainement persuadé Dieu et emporté la bénédiction. Mais ce n'est pas sûr. Car voyez-vous, le Seigneur dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché et ils ont transgressé mon alliance que je leur ai présentée et prescrite. Donc lève-toi, sanctifie le peuple, et tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. » C'est écrit dans Josué chapitre 6, versets 10 à 13. Voyez-vous, nous devons avoir une réforme dans l'Église. Demander un flot de bénédiction sur une Église rétrograde et même rebelle, c'est perdre son temps et ses efforts. Une nouvelle vague d'intérêt religieux ne fera rien de plus que d'ajouter aux Églises des membres qui n'ont aucune intention de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ et encore moins d'obéir à ses commandements. L'accroissement numérique de l'Église n'est pas ce qui intéresse vraiment Dieu, si ceux-ci qui la fréquentent ne veulent pas amender leur voie et s'appliquer à vivre saintement. Voyez-vous, jadis, autrefois, le Seigneur a dit par la bouche du prophète Ésaïe une parole qui devrait trancher carrément la question pour toujours. Il est dit dans Ésaïe chapitre 1, versets 11 à 19, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? C'est ce que dit l'Éternel. « Je suis rassasié, dit-il, des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends plus plaisir au son des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ? Cessez donc d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » La prière pour le réveil sera donc exaucée quand elle sera associée à une transformation radicale de notre vie. Pas avant, jamais. Les réunions de prière même dureront toute la nuit. peuvent réellement déplaire à Dieu si elles ne sont pas précédées d'une repentance pratique. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, nous est-il dit dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Nous devons donc revenir au christianisme du Nouveau Testament, non pas seulement dans notre profession de foi, mais aussi dans toute notre manière de vivre. Séparation, obéissance, humilité, simplicité, sérieux, contrôle de soi, modestie, tout cela doit redevenir une partie vitale de notre conception d'une vie chrétienne complète et être réalisée dans notre vie quotidienne. Nous devons nettoyer le temple des vendeurs et des changeurs et nous soumettre de nouveau pleinement à l'autorité de notre Seigneur ressuscité. Ceci s'applique à l'auteur de ce message comme à quiconque se réclame du nom de Jésus-Christ. Alors, nous pourrons prier avec confiance et nous attendre à ce qu'un vrai, véritable réveil s'en suive. Deuxièmement, qu'est-ce que la vie plus profonde? Chers amis, imaginez qu'un être céleste, ayant connu depuis sa création la félicité parfaite de demeurer dans la présence de Dieu, apparaisse sur la terre et vive un moment parmi nous, les chrétiens. Ne pensez-vous pas qu'il pourrait être étonné de ce qu'il verrait? Par exemple, il pourrait se demander comment nous pouvons nous contenter du niveau si bas de notre expérience spirituelle. Après tout, nous avons dans nos mains un message de Dieu qui non seulement nous invite à entrer dans une sainte communion avec lui, mais encore qui nous donne des instructions détaillées sur le moyen d'y parvenir. Après avoir joui intensément d'une communion intime avec Dieu, comment un tel être pourrait-il comprendre l'esprit superficiel et aisément satisfait qui caractérise même la plupart des chrétiens d'aujourd'hui? Et voyez-vous, si notre ange hypothétique a connu des âmes ardentes tels que Moïse, David, Ésaïe, Paul, Jean, Étienne, Augustin, Rutherford, Newton, Brainerd et Faber, il pourrait conclure logiquement que les chrétiens du 21e siècle ont très mal compris quelques doctrines essentielles de la foi et par là même qu'ils sont restés au seuil d'une véritable connaissance de Dieu. Et qu'en serait-il si, assistant aux réunions quotidiennes ou au culte du dimanche matin, et ils noteraient les extravagances, les prétentions que nous, chrétiens, nous formulons à notre endroit et les comparer avec nos expériences spirituelles réelles, il conclurait, je crois, qu'il y a une sérieuse contradiction entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes réellement. Donc, les prétentions que nous sommes fils de Dieu, membres du corps de Christ et enfants de la nouvelle création, ressuscité avec le Christ et assis avec lui dans les lieux célestes et habité même par l'Esprit Saint qui régénère, sont démentis par toutes ces non-attitudes ou attitudes négatives et notre conduite négative. Et surtout, je crois, aussi par notre manque de ferveur et l'absence d'un esprit d'adoration véritable. Si notre visiteur céleste faisait remarquer la grande contradiction qui existe entre nos croyances doctrinales et notre vie de tous les jours, il pourrait être aimablement éconduit avec l'explication qu'il ne s'agit là que d'un décalage normal entre notre position céleste inébranlable et notre expérience terrestre inévitablement plutôt très vacillant, hein, il faut bien le dire. Il serait alors certainement assez stupéfait que, fait jadis à l'image de Dieu, nous puissions nous permettre de jouer avec les mots et de badiner avec nos propres âmes. N'est-il pas significatif que tous les chrétiens qui défendent la position évangélique, ceux qui font le plus grand cas de l'apôtre Paul, sont souvent les moins pauliniens en esprit? Il y a une très grande différence entre une confession de foi paulinienne et une vie paulinienne. Ça, c'est pas tout à fait la même chose. Certains d'entre nous qui ont, pendant des années, observé la scène chrétienne avec bienveillance, se sentent poussés à paraphraser les paroles de la condamnation, ou plutôt de la condamnée, rappelez-vous, et à s'écrier « Oh Paul, que de crimes ont été commis en ton nom ! » et des dizaines de milliers de croyants qui se vantent de bien comprendre les épîtres aux Romains et aux Éphésiens ne peuvent dissimuler la contradiction flagrante qu'il y a et qui existe entre leur cœur et le cœur de l'apôtre Paul. Or, voici la différence de l'apôtre Paul ou que l'apôtre Paul cherchait vraiment et trouvait, car l'apôtre Paul cherchait, trouvait, et il continuait de chercher encore. Mais eux, ce qui veut dire nous cherchons et trouvons et ne cherchons plus. Et après avoir accepté le Christ, ils ont, tendance à substituer la logique à la vie et la doctrine à l'expérience. Pour eux, pour nous, la vérité devient un voile qui cache carrément la face de Dieu. Or, pour l'apôtre Paul, c'était une porte qui donnait accès à sa présence même. Donc l'esprit de l'apôtre Paul était celui du chercheur passionné. Il explorait les collines célestes pour découvrir l'or d'une connaissance personnelle de Dieu. Mais voyez-vous, de nos jours, beaucoup se réclament de l'apôtre Paul, mais ne le suivent pas dans son ardente recherche de la réalité de Dieu. Où sommes-nous, soi-disant pauliniens, et que de nom? Nous sommes pauliniens que par le nom, et c'est tout. Et avec les paroles, par exemple, quand il dit « afin de connaître le Christ », c'est ce qu'il avait dit. Eh bien, l'apôtre Paul faisait taire les gémissements et les revendications de la chair et il s'élançait vers la perfection. Il considérait tout gain comme une perte, et ceci à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, le Seigneur. Et il ne regardait pas aux souffrances, ni à la mort, si cela devait le conduire à une meilleure connaissance de son bien-aimé Sauveur et Seigneur. Car pour lui, la conformité au Christ n'était jamais trop coûteuse. Il soupirait après Dieu comme la biche soupire après les courants d'eau, et la froide raison n'influençait jamais ses sentiments. Certainement, bien des excuses prudentes, mais indignes, auraient pu être avancées pour ralentir, par exemple, sa marche. Et nous les avons toutes entendues, rappelez-vous. Surveille ta santé, cher ami. L'avertit un ami fort prudent. Et puis un autre, il dit, il y a danger que tu ne deviennes mentalement déséquilibré. Tu vas te faire une réputation d'extrémiste, s'écrie un troisième. Et même un docteur professeur d'enseignement biblique, avec plus de théologie que de soif spirituelle, s'empresse de l'assurer qu'il n'y a rien de plus à chercher. Tu es accepté dans le bien-aimé et béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, que veux-tu de plus? Tu n'as qu'à croire et attendre le jour de sa victoire. Et c'est ainsi qu'on exhorterait l'apôtre Paul s'il vivait parmi nous aujourd'hui, car telle a été la manière dont les saintes aspirations des croyants ont été étouffées alors qu'ils s'élançaient à la rencontre de Dieu dans une intimité croissante avec lui. Mais connaissant l'apôtre Paul, comme nous le connaissons, nous pouvons supposer qu'il ne tiendrait pas compte de ces piètres conseils d'opportunisme et qu'il courirait vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et nous ferons bien, croyez-moi, de le suivre dans ce chemin. Quand l'apôtre Paul s'écrit afin de le connaître, il emploie le mot connaître, non dans son sens intellectuel, c'est là la différence, mais dans son sens expérimental. Nous devons chercher sa signification non seulement dans l'esprit, mais dans le cœur. La connaissance théologique est une connaissance sur Dieu. Si elle est indispensable, elle n'est pas suffisante. Elle est aux besoins spirituels de l'homme, ce qu'un puits profond est aux besoins de son corps. Ce n'est pas après la cavité creusée dans le roc que soupire le voyageur poussiéreux, mais après l'eau douce et fraîche qu'elle nous procure. Ce n'est donc pas une connaissance intellectuelle sur Dieu qui étanche l'éternelle soif du cœur de l'homme, mais c'est la personne et la présence de Dieu lui-même. Elles viennent à nous par la doctrine chrétienne, mais elles sont plus que de la doctrine. Les vérités chrétiennes sont destinées à nous conduire à Dieu et non à en être que des substituts. Ces derniers temps, on peut constater dans le cœur d'un nombre croissant de chrétiens un désir nouveau d'approfondissement spirituel. Cependant, nombre d'entre eux se tiennent à l'écart et soulèvent des objections qui dénotent de l'incompréhension, de la crainte ou tout simplement de l'incrédulité. Ils font remarquer le névrosé, le psychotique, le sectaire pseudo-chrétien et le fanatique déréglé et les confondent sans aucune discrimination avec les véritables disciples de la vie plus profonde. Ceci est complètement absurde, bien sûr, et le fait qu'une telle confusion existe oblige ceux qui défendent la vie remplie de l'Esprit-Saint à définir leurs termes et à expliquer leur position. Alors, que voulons-nous dire et que défendons-nous? En ce qui me concerne, mon seul souci est de ne prêcher rien d'autre que le Christ et le Christ crucifié, pour que j'accepte une doctrine ou même une accentuation sur tel ou tel point de doctrine, je dois être persuadé qu'elle est vraiment biblique et tout à fait dans l'esprit apostolique. Et elle doit être en parfaite harmonie avec ce que l'Église historique a produit de meilleur, et dans la tradition, bien sûr, des ouvrages pieux les plus remarquables de l'hymnologie la plus vibrante et des expériences les plus édifiantes que les biographies de chrétiens nous rapportent. Donc, une telle doctrine ou une telle accentuation sur un point de doctrine doit être conforme à l'ensemble de vérités qui nous ont donné des âmes saintes telles que, par exemple, Bernard de Clairvaux, Jean de la Croix, Molineux, Nicolas de Cuse, John Fletcher, David Brainerd, Reginald Heber, Evan Roberts, le général Booth, qui a fondé l'Armée du Salut, et une foule d'autres âmes semblables qui, tout en étant moins douées et beaucoup moins connues, constituent ce que Paul Rize appelle, dans un autre contexte, que c'est la semence de survie. Et en effet, c'est une heureuse expression, car ce furent de tels chrétiens qui empêchèrent le christianisme de s'effondrer sous le poids de la médiocrité spirituelle qu'il était contraint de porter. Parler de la vie plus profonde, ce n'est pas parler de quelque chose de plus profond que la simple religion du Nouveau Testament, mais c'est plutôt insister pour que les croyants explorent les richesses que l'évangile chrétien contient sûrement, mais dont nous manquons aussi sûrement. Voyez-vous, la vie de profonde spiritualité n'est plus profonde que parce que la vie habituelle du chrétien est tragiquement superficielle. Voilà le problème. De nos jours, ceux qui se font les avocats de la vie plus profonde ne pourraient pas soutenir la comparaison avec la majorité des chrétiens qui entouraient l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre. Il se peut qu'ils n'aient pas fait beaucoup de progrès jusqu'à présent, mais leurs visages sont cependant tournés vers la lumière et ils continuent de nous faire signe. Il est difficile de comprendre comment nous pouvons justifier notre refus de répondre à leur appel. Ce que les défenseurs de la vie plus profonde nous disent, c'est que nous devons progresser pour jouir dans une expérience intime avec Dieu des éminents privilèges qui sont nôtres en Jésus-Christ et que nous devons insister pour goûter la douceur d'une adoration intérieure en esprit aussi bien qu'en vérité et que pour atteindre cet idéal, nous devons si nécessaire dépasser nos frères satisfaits et attirer sur soi toute opposition qui pourrait s'en suivre. L'auteur du célèbre ouvrage de piété, La nuit obscure, qui a été écrit par Saint Jean de la Croix, commence son petit livre par une prière qui est tout à fait dans l'esprit des tenants d'une vie plus profonde. Il dit par exemple, « Seigneur, toi qui connais les cœurs et les plus secrètes pensées, je t'implore pour que tu purifies mon cœur de ses mauvaises intentions par le don ineffable de ta grâce, afin que je puisse t'aimer parfaitement et te louer dignement. Amen. Quel croyant, cher ami, vraiment né de l'Esprit Saint, à moins qu'il n'ait été prévenu par un faux enseignement qui peut s'opposer à une si complète purification du cœur qui le rendra capable, croyez-moi, d'aimer Dieu parfaitement et de le louer dignement. Je répète, quel croyant vraiment né de l'Esprit Saint, à moins qu'il n'ait été prévenu par un faux enseignement, et qui peut s'opposer à une si complète purification du cœur qui le rendra capable d'aimer Dieu parfaitement et de le louer dignement. Cependant, voyez-vous, c'est exactement ce que nous entendons quand nous parlons de l'expérience d'une vie plus profonde. Car nous voulons seulement dire qu'elle devrait être littéralement vécue dans le cœur et non pas simplement acceptée par l'intelligence, je répète. Cependant, c'est exactement ce que nous entendons quand nous parlons de l'expérience d'une vie plus profonde. Voyez-vous, chers amis, nous voulons seulement dire qu'elle devrait être littéralement vécue dans le cœur, dans notre cœur, et non pas simplement accepté par notre intelligence. Nicéphore, un père de l'Église d'Orient, dans un petit traité sur la vie remplie de l'esprit, commence par un appel qui ne nous paraît étrange que parce que nous avons été pendant si longtemps habitués à suivre Jésus-Christ de loin et à vivre au milieu de gens qui faisaient de même. Mais voici ce qu'il dit. Toi qui désires saisir la merveilleuse illumination divine de notre Sauveur Jésus-Christ, qui aspire à ressentir le feu divin dans ton cœur, qui t'efforce d'éprouver la réconciliation avec Dieu, qui a renoncé à toute mondanité pour déterrer le trésor enfoui dans le champ de ton cœur et en prendre possession, qui désire que la lumière de ton âme brille dès maintenant d'un vif éclat et qui souhaite connaître et recevoir consciemment le royaume de Dieu en toi. Ô viens, et je te communiquerai la science de l'Éternel, la vie d'en haut. Chers amis, on pourrait multiplier de telles citations jusqu'à remplir une demi-douzaine de volumes. Aucune génération n'a jamais laissé complètement mourir cette aspiration vers Dieu. Il y en a eu toujours qui méprisèrent les voies inférieures et qui s'obstinèrent à marcher sur les hautes avenues de la perfection spirituelle. Cependant, assez curieusement, le mot « perfection » ne signifiait jamais un sommet spirituel, ni un état de pureté qui rendait la vigilance et la prière superflues. Bien au contraire, oui, c'est le contraire qui était vrai. Donc, unanimement, les plus grands chrétiens ont rendu témoignage que plus ils s'approchaient de Dieu, plus ils avaient conscience de leur péché et de leur indignité personnelle. Oh oui, les âmes les plus pures ne savent jamais combien elles sont pures, et les plus grands saints n'ont jamais pressenti combien ils étaient grands. Ils auraient rejeté comme une tentation du diable la pensée même qu'ils étaient bons et qu'ils étaient grands. Ils étaient si absorbés dans la contemplation de la face de Dieu qu'ils passaient bien peu de temps à se regarder eux-mêmes. Ils avaient le sentiment de se trouver pris entre deux vérités paradoxales, se savoir purifié par le sang de l'agneau et cependant se tenir digne de la mort et de l'enfer. Ce sentiment est fort dans les écrits de l'apôtre Paul. Chers amis, la qualité du christianisme doit être grandement améliorée si le présent intérêt inhabituel pour la religion ne laisse pas l'Église pire, bien pire, qu'elle n'était avant l'apparition de ce phénomène. Si nous écoutons, alors, je crois que nous entendrons le Seigneur nous dire ce qu'il a dit jadis à Josué, quand il a dit « Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne et que je donne aux enfants d'Israël. » Ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui veut nous encourager à laisser les éléments de la parole du Christ pour tendre à ce qui est parfait. Et nous entendons sûrement l'apôtre Paul nous exhorter à être remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Si nous sommes assez vigilants, chers amis, pour entendre la voix de Dieu, eh bien nous ne devons pas nous contenter simplement de croire ce qu'elle nous dit. Comment peut-on croire un commandement? Les commandements sont faits pour être exécutés. Et tant que nous n'y avons pas obéi, nous n'en avons fait aucun cas. Les avoir entendus sans y obéir est infiniment pire que de ne les avoir jamais entendus, et ceci particulièrement à la lumière du prochain retour du Christ et du jugement à venir. Chers amis, nous allons terminer ensemble par la prière. Et je pense que vous, nous tous, nous pouvons réfléchir sur ce que nous venons d'entendre et de prier pour que le Seigneur nous éclaire par son Esprit Saint. Prions ensemble. Seigneur Dieu, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, en qui, par qui et pour qui sont toutes choses, qui est, qui était et qui sera Alpha et Oméga, commencement et terme, principe et fin, point de départ et point d'arrivée. Tout ensemble, notre source et notre but, tout cela, tu l'es pour nous, ô Dieu, qui subsiste d'éternité en éternité. Tu as voulu que la vie de notre race participât de ton ineffable essence. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce à toi qui seul est vraiment digne de recevoir nos prières et notre adoration. Tu nous as donné la vie, l'esprit et l'être pour te connaître et vivre dans ta communion. À toi seul, Seigneur, soit la louange et la gloire. Amen. Et, chers amis, sachez que Dieu aime tous ceux qui ont vraiment accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Par contre, ceux qui ont refusé son salut n'obtiendront jamais la rédemption. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisez et notez soigneusement Saint Matthieu chapitre 7 verset 7. Dire simplement que Dieu aime tout le monde. C'est pas tout à fait ce que nous enseigne la parole de Dieu. Chers amis, si vous avez placé votre foi, votre vie en Jésus-Christ, il y a maintenant, en effet, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, selon Romains chapitre 8, verset 1. Chers amis, de toute façon, mon désir, c'est que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, pas toujours faciles. Et à bientôt à nouveau. Merci, mes très chers amis. Au revoir.